Que pensez-vous, que pensez de la messe sur le monde du Père Teilhard? On ne peut séparer la croix et la gloire. Pourquoi nous, catholiques, nous représentons toujours le Christ en croix et si rarement le Christ glorieux? Parce que c'est beaucoup plus difficile. Je n'ai aucune couleur de la gloire, aucune expérience sensible de la gloire, ni de la douleur, hein, tous les jours. Vous voyez, ça fait comprendre pourquoi il y a les icônes. Où il y a un côté beaucoup plus symbolique. Et les orientaux sont beaucoup plus tournés vers la gloire. Et l'église latine beaucoup plus vers la croix. C'est la complémentarité, ça. Les orientaux sont très marqués par la vie monastique. Et la vie monastique est glorieuse. Vous voyez bien ici, toutes les figures sont glorieuses. Beaucoup plus tournées vers la gloire que ceux qui sont dans le monde. Ben oui, c'est le labeur de la croix. La croix existe chez les moines, mais elle est plus cachée. Ça, c'est vrai. Plus intérieure. Et la spiritualité des orthodoxes, elle est monastique. Je me souviens bien cette petite étudiante de médecine à Athènes, c'était en 1950, qui disait « Nous, nous sommes attachés à l'orthodoxie à cause des moines. » Combien de catholiques diraient ça? Vous voyez, c'était très significatif, l'orthodoxie. Elle est faite par les moines et la liturgie monastique. Et je me souviens, là, c'était un père orthodoxe, un moine roumain. C'était quand j'étais encore au Solgeoire, chez les Dominicains, avant d'aller à Fribourg. Et qui me disait combien il aimait la simplicité de la liturgie latine. En comprenant, vous voyez, que cette simplicité pouvait aller plus loin dans la contemplation. On trouve toujours cette difficulté d'une complémentarité. La contemplation et l'aspect visible, sensible. Le sacerdoce du Christ est à la fois contemplatif et liturgique. La grande liturgie de la croix, la grande liturgie de la gloire. Alors, la messe sur le mont du Père Teilhard, il y a quelque chose de juste. Et puis, il faut faire attention. Il ne faut pas prendre cela comme le tout de l'Eucharistie. Il faut des adorateurs sur les hauts lieux et à Jérusalem dans le temple. Il y a une liturgie cosmique et la croix est cosmique. Et il y a une liturgie à l'intérieur du temple, des églises. Au Moyen-Âge, c'était très bien vécu, ça. Sur le parvis de la cathédrale, il y avait toutes les paroles liturgiques. Il n'y a plus de paroles liturgiques aujourd'hui. Alors on fait entrer les paroles liturgiques à l'intérieur. Et on confond quelquefois la messe et les paroles liturgiques. Il peut y avoir des paroles liturgiques qui peuvent aider avec des dons. Puis il y a la liturgie de la messe, qui est autre chose. craint beaucoup du fait même qu'on n'a plus ces deux aspects, alors il y a des confusions. Et peut-être que ce serait un des aspects de l'art chrétien de redonner le sens des paraliturgies. Et comme il y a une catéchèse qui conduit à la contemplation et qui conduit à la théologie, pourquoi pas aujourd'hui, ça se fait dans certains lieux du reste, des paraliturgies, qui aideraient beaucoup, j'en suis sûr, pour conduire à l'Eucharistie, pour conduire à la véritable, liturgie. Alors voyez, il y a chez le père Teilhard, comme souvent chez le père Teilhard, il a des intentions magnifiques, le père Teilhard. C'est vrai, moi, il me touche dans ses intentions. Mais c'est souvent mal réalisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de distinction dans les réalisations. Mais les intentions. Vous voyez, je crois que le père Teilhard, c'est ce désir intense de réconcilier la foi et la science. Alors, je ne sais pas si on peut, d'abord, c'est pas la peine de dire réconcilier. C'est deux terrains différents. Acceptons la diversité. Et lui est un moment. C'est un âge très apologétique, hein, le père Teilhard. Il ne faut pas l'oublier. C'est le début du siècle. Et je crois qu'il a voulu faire une apologétique à partir d'une théologie mystique. Je crois qu'on ne peut pas faire une apologétique à partir d'une théologie mystique. Et ça explique pas mal de ses confusions. J'aurais voulu à Fribourg pousser un étudiant là-dessus. Mais c'est difficile. Étudier le père Teilhard au plan, voyez, sur les plans de la théologie mystique, de la théologie scientifique et de la philosophie, ça aurait été très intéressant. Pour bien montrer qu'il y a des éléments merveilleux de philosophie. Il y a des éléments merveilleux de théologiens et théologie mystique. Il y a un peu une confusion. C'est pour ça que l'Église a dit, faites attention. Ne prenez pas Teilhard pour un maître. Prenez Teilhard pour quelqu'un qui peut vous réveiller. Que tous les gens qui dorment lisent Teilhard pour se réveiller. Il y a des choses merveilleuses. Parce que ça réveille. C'est vrai. Vous donne un coup de fouet. Mais, quelquefois, il y a un manque de précision. Je continue. L'intention du Christ à la scène. Je crois ça très important. Dans toute alliance, il faut remonter à l'intention de Dieu, à l'intention du Créateur et du Dieu qui nous donne son Fils pour nous racheter. Création et recréation. Et la recréation, elle se fait dans le corps du Christ, à la croix. Et la scène, l'Eucharistie, est là pour nous montrer que cette recréation est toujours actuelle. La double consécration a toujours été regardée comme ce qui nous donne symboliquement, mais d'un symbolisme divin, donc réellement, le mystère du sacrifice. À l'intérieur du don, il y a le sacrifice. C'est aussi très beau. Ça nous aide peut-être à comprendre que si, à la scène, Jésus fait ce geste du père de famille, qui distribue le pain et qui donne le vin, bruit du travail laborieux à la sueur de son front. À la scène, Jésus a dû offrir, à la croix, Jésus a dû offrir son corps et son sang. Il n'y a plus de gestes. Ses mains sont clouées sur le bois et ses pieds sont attachés à la croix. Je crois que le geste du Christ à la scène, ce geste de pure miséricorde, ce geste, il peut se faire grâce à l'immolation de la croix. Oui, c'est un geste de pur don qui se fonde sur les mains clouées et les pieds clouées. Et c'est pour ça qu'il y a la double consécration. C'est un geste, la double consécration. Ce n'est pas la même chose de prendre le pain dans ses mains et de le partager, et de le consacrer, et de prendre le calice et de le consacrer. Cette double consécration signifie et réalise le mystère de l'holocauste de la croix. Et donc, non seulement les mains et les pieds cloués, mais le cœur blessé. Jaillit le sang et l'eau. Et je crois que c'est important de comprendre que le geste du Christ à la scène est porté, comprenez bien, est porté par la blessure du cœur qu'il exprime et qu'il nous donne, et par les mains et les pieds cloués sur le bois. Il y a un double symbolisme. Le symbolisme qui rappelle le mystère de la croix et le symbolisme qui nous donne la nourriture. Vous voyez, unis dans le même geste, mais qui est double. Il y a deux gestes dans l'unité. Unis le don du pain et l'holocauste et le sacrifice de la croix. Unis dans le même geste. Jésus à la croix, Jésus à la scène, se donne avec le même réalisme qu'à la croix. En glorifiant le Père et en nous sauvant. C'est pour ça que c'est si important de recevoir au plus intime de notre foi l'intention du Christ. L'intention du Christ qui se livre, qui se donne jusqu'au bout. Puisqu'il est la victime par excellence, à travers la blessure du cœur. Et donc, la double consécration exprime cet état victimal ultime, plaigné, du Christ qui glorifie le Père et qui se donne à nous. Pour se donner à nous, il faut, pour se donner à nous sous la forme du pain et du vin, il faut le mystère de la croix. Jésus ne peut se donner à nous pleinement sous la forme du pain et du vin que parce qu'il est entièrement offert d'une manière sanglante à la croix. C'est pour ça que la scène est toute relative à la croix. Et l'institution de l'Eucharistie est tout entière relative à la croix. Le jour où on ne voit plus ça, on ne regarde l'Eucharistie que d'une manière symbolique. C'est ce qui se passe chez beaucoup de théologiens aujourd'hui, hélas. Parce qu'ils séparent ce que tu as uni. Et c'est uni dans l'intention même du Christ. Il suffit de lire Saint Luc et Saint Jean, chapitre 13 de Saint Jean, chapitre 22 de Saint Luc, pour comprendre que l'intention du Christ réalisée à la croix et l'intention du Christ réalisant l'institution de l'Eucharistie, c'est la même intention dans la sagesse divine. C'est donc le même mystère vécu sous deux formes différentes. Mais c'est le même mystère. Celui qui assiste à la messe est présent divinement à la croix. Le mystère de la croix lui est totalement donné dans sa foi et dans son espérance. C'est pour ça que c'est si grand. C'est pour ça que c'est si grand l'Eucharistie. Alors voyez, c'est ça qui est moins exprimé dans le Père Teilhard. Il exprime avant tout une espèce d'adoration cosmique. Ce qui existe à la croix. C'est bien évident. Jésus, à la croix, offre le monde entier, puisqu'il s'offre, et qu'il est le roi du monde. Transformé par la croix. On ne le voit pas. C'est caché. Mais un jour, on le verra. Quand le Christ reviendra dans sa gloire, on verra comment la croix a transformé l'univers. Mais complètement. Tout l'univers, c'est pour la croix. Toute la création de Dieu, c'est pour la croix. En tant que croyant, je dois le dire. Alors vous voyez, je ne peux plus séparer création et recréation. Et le Père Teilhard a été très pris par le problème de la création et de l'évolution. C'est un petit peu sa hantise, vous voyez. Parce qu'il veut à tout prix réconcilier science et foi. Oubliant que l'évolution, très bien, théorie, hypothèse, je ne veux pas discuter aujourd'hui là-dessus. Mais aujourd'hui, vous savez bien, toute une série de très grands savants disent qu'on a exagéré sur l'évolution. Et à la fin de sa vie, le vieux Rostand a dit à quelqu'un que je connais, oui, il faudra réviser toute la théorie de l'évolution. Alors qu'elle était partisan de l'évolution de façon à fond. On ne peut pas baser la foi sur l'évolution. On regarde la création. Et la création est toujours présente dans tout acte d'adoration. Donc elle est présente à la croix. Et sans que si elle est présente à la croix, elle est présente à chaque messe. Et c'est pour ça qu'il y a dans toujours le mystère de l'Eucharistie quelque chose de cosmique. En raison même de l'adoration. Une adoration qui s'achève dans une contemplation et dans l'offrande de la chair du Christ. dans une vue chrétienne, l'évolution ultime, si évolution il y a, c'est le corps du Christ. L'univers physique ne peut pas aller au-dessus du corps du Christ. Impossible. Le corps du Christ est le chef-d'œuvre de notre univers. Tout notre univers est ordonné à la formation du corps du Christ. Et le corps du Christ a été formé par l'Esprit Saint en Marie dans notre univers, au cœur même de notre univers, pour le mystère de la croix. Voyez cette finalité, le Père Teilhard ne l'a pas assez vue. Il faut essayer de saisir dans la foi, dans une contemplation divine, chrétienne, la grandeur de ce geste du Christ qui est présent. Je ne dis pas qu'il est répété. J'aime pas beaucoup dire que le geste du Christ est répété. On ne répète pas quelque chose qui a une valeur absolue dans l'amour. Ça ne se répète pas. La messe, ce n'est pas une répétition. Vous savez, le Saint-Esprit n'aime pas beaucoup les répétitions. Il en faut des répétitions de chant, de liturgie, à cause de notre bêtise, à cause de notre manque de sens artistique, à cause de notre manque d'attention. Mais les choses divines ne se répètent pas. La messe n'est pas une répétition de la croix. C'est le mystère de la croix pour nous, sous une autre modalité. Parce que c'est substantiel. C'est beaucoup plus fort. Parce que c'est une répétition. Moi, je regrette toujours de ne pas assister à la première. Quand c'est une répétition, c'est très ennuyeux d'être à la seconde. Tandis que si vous comprenez que c'est la croix, mais vous ne pensez pas du tout à dire « Ah, c'est malheureux, je n'ai pas été à la croix », mais vous y êtes. Autrement, c'est une autre modalité. C'est la réalité, c'est la même réalité. C'est ça qui est foudroyant. La messe, c'est la croix pour nous. Et c'est pour ça qu'on doit vivre la messe comme Marie a vécu la croix. Dans un mystère de compassion. Nous apportons tout nous-mêmes et nous voulons que tout nous-mêmes soit pris et saisi par le mystère de la croix du Christ et renouvelé et transformé. Comme Marie a été renouvelée, transformée par le mystère de la compassion et dans le mystère de la compassion. Elle a été renouvelée d'une façon étonnante puisque la mère de Dieu est devenue la mère des hommes. C'est à la fois une continuité et une reprise divine. Comprenons comment ce mystère voulu par le Christ, voulu par le Père, le mystère des sacrements, est une liturgie toute nouvelle, illuminée de la sagesse de la croix. La liturgie chrétienne ne se comprend qu'à la lumière de la croix glorieuse, de la croix liée à la gloire. Mais de la croix et de la gloire, pour nous, puisque notre temps liturgique se divise en deux. Comprenons que ce mystère de la double consécration se réalise par la toute-puissance de Dieu. C'est pour ça que c'est plus que n'importe quel miracle. Mais quelquefois, on a la nostalgie des miracles. On voudrait bien assister à un miracle quand on va à Lourdes. Et on oublie qu'on vit tous les jours, si on le veut, le miracle par excellence. La toute-puissance de Dieu est mobilisée pour l'Eucharistie, pour cette réalité nouvelle, ce don du Christ, du corps du Christ, de la chair du Christ, du sang du Christ, sous cette modalité spéciale du pain et du vin. C'est ce que l'Église a appelé la transsubstantiation. Et l'Église a maintenu. Vous savez que pendant le Concile Vatican II, certains théologiens auraient voulu que la théologie s'adapte à la philosophie moderne. C'est un peu terrible que de fait il y a un effort de mieux comprendre ce que c'est que l'homme. Très très bien, on est tous d'accord, et le Saint-Père en tête, mais cette anthropologie implique une métaphysique pour être parfaite, parce que l'homme est fait pour Dieu et la métaphysique n'a pas d'autre but que de montrer que l'intelligence humaine est capable, par elle-même, de remonter jusqu'à Dieu. Pas comme la foi, d'une manière beaucoup plus imparfaite. Elle est capable, par elle-même, d'affirmer que Dieu existe. Et c'est pour ça que l'intelligence a quelque chose de sacré. Je ne peux pas faire de mon intelligence n'importe quoi. Vous n'avez pas le droit de me nourrir d'erreurs, sachant que ce sont des erreurs. Je m'empoisonne. L'intelligence est quelque chose de sacré. Et donc l'intelligence, elle est faite pour la recherche de la vérité. Et celui qui abdique cette recherche de la vérité, il s'est empoisonné. Lui-même. n'a pas le droit de nourrir notre intelligence d'erreurs, en sachant que ce sont des erreurs. Elle est faite pour la vérité. Alors certains théologiens modernisants auraient voulu, en fonction de la théologie moderne, c'est-à-dire à partir d'une anthropologie dans une perspective purement phénoménologique, manière Husserl, aurait voulu, à la place du mot transsubstantiation, mettre trans-finalité. Trans-signification. Mais trans, c'est-à-dire au-delà, un dépassement. Et c'est pour ça que le pape, si vous vous souvenez bien, ceux qui ont vécu le concile, ceux qui ne l'ont pas vécu, c'est un fait historique, donc il peut toujours être vécu. Le pape, durant le concile, je me souviens, j'avais été à Rome juste la veille de cela. C'était sans doute pour sentir ça. C'était intéressant. Le pape Paul VI a écrit une encyclique, Mysterium Fidei. Et à Rome, la veille, où l'encyclique allait paraître. Les théologiens se disaient, est-ce que le pape va faire paraître ça? C'est quand même, par rapport à tous les pères conciliaires, et par rapport à tous les experts, c'est un petit manque de confiance. C'est montrer qu'il n'est pas assez sûr d'eux. Alors il écrit l'encyclique. Alors ce qu'il va l'envoyer, est-ce que cette encyclique est vraiment écrite, est-ce qu'elle va paraître? Ou est-ce que le Saint-Père va attendre la fin du concile pour la faire paraître? Alors la bombe a éclaté le lendemain, et l'encyclique est parue. Et le Saint-Père, alors avec force, dit, on ne peut pas changer ce mot. On peut très bien parler de transunification, transfinalité, très très bien. Mais on n'a pas le droit de remplacer transsubstantiation par transsignification et transfinalité. Alors, en deux mots, je vous le dis. Pourquoi ? Que transsignification touche l'être. On veut montrer que le mystère de l'Eucharistie fait appel à la toute-puissance de Dieu qui seul agit sur l'être. D'où le mot transsubstantiation qui montre que le mystère de l'Eucharistie fait appel à la toute-puissance créatrice de Dieu. Tandis que transsignification ne fait pas appel nécessairement à la toute-puissance de Dieu. Un exemple très simple. Quand vous visitez un musée où il y a des vieux dessins de peau cassée, où il y a derrière les vitres des vieux pots de terre, pots de cire, des céramiques. Vous voyez la transsignification. Ces pots de terre, ces urnes étaient faites pour être dans le grenier, dans la cave, pour contenir le grain. La signification, ces urnes. Et quand elles sont derrière les vitres, transsignification. Transfinalité. C'est l'homme qui se sert de ces très anciens objets, comme ils sont très, très rares. Ils ont beaucoup de prix, vous savez bien. Le vieil exemple de tous les manuels de logique. Ce qui est rare a beaucoup de prix. Il y a beaucoup de valeur. Au moment où ces urnes servaient à un usage courant, dans toutes les maisons, il y en avait. Si quelqu'un avait eu le toupet de mettre ses urnes sous vitre, sans admirer-les, on l'aurait traité de fou, mais complètement de fou. Alors voyez, si par hasard, un de ses ancêtres revit aujourd'hui et visitait un musée d'art ancien, mais dirait ils sont fous. Ils mettent sous vitrine ce que nous touchons tous les jours. Quelle baisse dans l'humanité. Transsignification, transfinalité. Pas transsubstantiation. Alors, ces théologiens, que je connais un peu, avaient fait un papier que j'ai eu du reste entre les mains. Ça m'intéressait beaucoup. C'était une transsignification pour passer pour moi. C'est plus la même signification. Il fallait passer une douane. Alors je ne dis pas trans nécessairement, ça pouvait être hypo-signification. C'est plus un expert. Mais c'est vrai que ça a changé de signification. C'est comme quand vous écrivez une lettre pour quelqu'un et que cette lettre va dans d'autres mains. Transsignification. Autre signification. Autre finalité. À ces experts donnent l'exemple du thé. La signification du thé quand il est dans la boîte de thé. Dans le thé quand il en l'a mis. Dans la tasse, quoi. Le thé est fait. Dans la théière. Puis dans la tasse. Puis celui qui boit. Et les étapes, signification. Mais il n'y a pas transsubstantiation. Donc l'Église maintient le terme, malgré nos frères protestants. L'Église juge, on ne doit pas changer ça, et on doit maintenir ça. Et c'est très important. C'est deux fois, depuis le Concile de Trente, vous n'avez pas le droit de dire que vous n'y croyez pas. C'est quelque chose qui est au-delà de votre intelligence humaine. Vous n'auriez jamais inventé ça humainement, moi non plus. Mais personne, ni Aristote, ni Platon. Platon aurait fait un mythe merveilleux, vous savez. Il y aura un mythe merveilleux sur l'Eucharistie, philosophiquement parlant. Montrer qu'au fond, l'Eucharistie répond aux nostalgies les plus profondes de l'homme. la manne. Tout le peuple d'Israël la recevait, tous les matins. Les prêtres n'avaient aucun rôle. Ils allaient chercher la manne comme les autres. Il fallait la chercher tous les jours, sauf le jour du sabbat. Pourquoi Jésus n'a-t-il pas, quand il a institué l'Eucharistie, fait que l'Eucharistie soit donné par tous les fidèles, ou plus exactement, soit donné directement par Dieu pour tous les fidèles? Je dis ça, c'est parce que certains ont inventé ça. Certains ont dit, mais l'Eucharistie, c'est ça. Jésus est présent en fonction de la foi du peuple qui assiste. Jésus est présent subjectivement à cause de la foi. Alors le prêtre, oui, un rôle, tout simplement, parce qu'il faut bien qu'il récite les prières tout, il faut bien qu'il dirige les chants. Donc il préside, pas plus. Mais c'est la foi de tous les chrétiens qui rend présent le Christ. Vous voyez, ce serait comme une continuité du mystère de la manne. Évidemment, une manne divine, qui est le corps du Christ. Pourquoi Jésus a voulu que ce soit par la médiation d'hommes qu'il a choisi pour être ses prêtres? Un fidèle, baptisé, confirmé, très saint, une sainteté peut-être beaucoup plus grande que le prêtre qui dit la messe, n'a pas le pouvoir, l'autorité de consacrer. Pourquoi Marie, allant jusqu'au bout, Marie n'a pas eu le pouvoir de consacrer? Ça va faire une division parmi les fidèles de l'Écriture. chrétiens. Les chrétiens aiment mieux d'être tous unis dans un amour où tous sont les mêmes. Égalité absolue, fraternité absolue. Dans l'Eucharistie, on est tous les mêmes. Pourquoi ? Certains. C'est vrai, ça, c'est vrai. On voit très bien aujourd'hui. Vous voyez, les femmes qui désirent à tout prix revendiquer leurs droits au sacerdoce. C'est que Marie n'a jamais revendiqué. Vous savez, ça a été la réponse du cardinal Gandin quand il était à Lourdes au moment du congrès eucharistique. La première opposition qu'il y a eu, ça venait de la Hollande, du reste, hein, un groupe de Hollande, hein, si je me souviens bien, qui ont dit, mais pourquoi l'Église s'oppose-t-elle aux sacerdoces des femmes? Monseigneur Gandin a simplement répondu, il y a la Vierge Marie. C'était la réponse la plus sublime. Il y a la Vierge Marie. Vous voulez dépasser Marie?